There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT
89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Foucault Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants. Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade? Et oui, après avoir vécu pendant des mois avec une vie sociale restreinte, privée de nos amis, de culture et de loisirs, il est plus que jamais essentiel de renouer avec la vie d'avant. C'est pourquoi cet été, pour vous remonter le moral, Popourri Show vous propose des expériences uniques. Une programmation musicale enlevée, rythmée, festive, lumineuse, en partenariat avec le Festival Compazou Ontario. Tout l'été, Popourri Show mettra en valeur des circuits courts, la culture populaire, sous toutes ses formes, en vous parlant de l'humour, de théâtre, de cinéma, de festivals et de musique, à La Rochelle, à Montréal, à Québec et à Toronto. Cet été, gardez le tempo. Prenez la route des vacances chaque dimanche avec Popourri Show et le Festival Compazouk Ontario sur CIT 89,5 FM. C'est le médicament pour remonter votre morale. Dimanche 25 juillet 2021. Bonjour et bienvenue à Toronto et Popourri Show dans le tempo de l'été 2021. L'ingénieur du son DJ Devera, production animation Eric Adair en direct sur www.cut.fm et vous pouvez télécharger nos émissions où que vous soyez à travers le monde sur popourrishow.com. Cette émission est réalisée en partenariat avec le Festival Compazouk de l'Ontario, Fondation Sylvanie Lindor, TV5 Monde, RFI, France 24, France Inter, France Culture, Le Tréfo et les rendez-vous de cinéfranco.com ainsi que les éditions prise-de-parole.ca. Eh oui, j'espère que tout va bien de votre côté. J'ai le plaisir de dédier cette émission à mes amis parents de Rennes, Plougastel, Doualas en Bretagne, le révérend Jesse Jackson, défenseur infatigable de la communauté noire américaine qui a reçu les insignes de commandeur de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron lundi dernier. Eh oui, et ma sœur Corinne et sa petite famille à Turin en Italie. Au menu en ce dimanche, hurrah, ça sent l'été, enfin. Et oui, les annonces du gouvernement du Canada sur la réouverture des frontières apportent soulagement et scepticisme. La pandémie Covid-19 n'est pas nouveau pour notre invité Jean Tellet, auteur du livre « L'épidémie dansante » de 1518 à Strasbourg, la première rêve partée au monde, collaboration France Culture. Loin du chaos, le film haïtien Freda a brillé au Festival de Cannes avec Standing Ovation, s'il vous plaît. Entretien en exclusivité avec RFI. Et oui, nous recevrons la productrice haïtienne de ce film. Quel avenir pour les festivals d'été en cette période si particulière? De Montreux à Québec et le Festival Afrofest à Toronto. Je vous invite à découvrir les sons de l'été grâce à nos DJ et les médias partenaires. Et je vous invite au voyage avec Vida Loca, le dernier clip de l'artiste haïtien résident à Montréal, Richie J, qui passe régulièrement cette émission, un vrai régal. Magic System refait surface avec un succès incroyable. Et enfin, pourquoi les artistes, les auteurs du monde maghrébin sont si méconnus au Canada? À qui la faute? À qui la faute? Eh oui, les Marocains, il a grandi en Côte d'Ivoire. Qui est-il? À découvrir vers 12h35. Mais pour tout de suite, place à une chanson rétro, festive, au titre prometteur. Voilà l'été, c'est le premier succès des Négresses Vertes, un groupe de rock indépendant, alternatif, métissé, né en 1987 et qui fit les belles heures de la scène française de la fin des années 80. Avons-nous toujours le droit de prononcer Négresses Vertes en 2021? Toute l'équipe de CUTFM vous souhaite un très bel été.
J'aperçois le soleil, les myrtilles et le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud, il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et Dieu sont ravis.
On fait l'été.
Enfin l'été, mais il y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro sud qui devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti. À qui doit-il qui s'exprime violemment? Il y a plus de mille voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riez tous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont fuir dans leur jeu. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Les dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles, et les vieux sont ravis. Voilà l'été, enfin l'été, toujours l'été.
Écoutez la planète chanter.
Elle a ton souvenir.
Ay, maman, voilà de l'eau.
Adra ben la cosa, adra ben la cosa. Ding et ding.
Non,
ding et ding.
Écoutez la planète chanter.
L'avenue de la Victoire n'avait pas connu pareille affluence depuis longtemps. La tête du cortège atteint le barachois. L'arrière est encore au niveau de la cathédrale. Cette vague de protestation gonfle sous l'effet du discours d'Emmanuel Macron avant-hier.
C'est une atteinte claire aux libertés individuelles, aux libertés de circuler, aux libertés. Ce sont des mesures liberticides, ce sont des mesures discriminatoires, ce sont des mesures qui nous font entrer dans une sorte de dictature, qui nous éloigne de la démocratie.
Dans la foule, des personnes pas forcément opposées au vaccin, mais attachées à la liberté de choix.
Mais ne fais pas le vaccin. Oblige pas de monde, fais des choses qu'il ne veut pas faire. Donc voilà.
C'est surtout, on ne veut pas le pass sanitaire, c'est ça le plus important. On ne veut pas du pass sanitaire. La liberté vaccinale, oui, mais non au pass sanitaire.
C'est pas la solution d'obliger. Moi, là-bas, je pense qu'il aurait fallu dès le départ qu'on ne nous montre pas, en fait, d'où venait ce virus. Et je pense que tout est à la base de tout ça, en fait. Dès l'instant qu'on nous a menti au départ, et bien, on n'arrive plus à faire confiance, en fait.
Oui, c'était un petit détour à l'île de La Réunion. En effet, La Réunion, la Martinique, sous tension avec le retour des restrictions sanitaires, passe sanitaire, couvre-feu. Des affrontements en Martinique samedi et dimanche dernier entre bandes incontrôlées et forces de l'ordre. Incendie, voiture brûlée, le message d'Emmanuel Macron ne passe pas. Avant de prendre l'avion pour les Outre-mer, entre autres Martinique, Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, il est essentiel de consulter le site diplomatie.gov.fr.
Après on dispute devant mon pote.
Il a peut-être son bouclier en l'air, il croit peut-être que les six sont d'air.
Et oui, c'est Daniel Waro, grand ambassadeur de la Maloya, musique traditionnelle de l'île de la Réunion. Et enfin, un message du gouvernement du Canada, avertissement officiel aux voyageurs qui désirent se rendre en Haïti. Évitez tout voyage non essentiel en Haïti en raison des troubles civils qui pourraient sévir à travers le pays. La situation en matière de sécurité pourrait se détériorer rapidement. Les enlèvements d'Haïtiens et de Canadiens ayant la double citoyenneté d'étrangers se sont multipliés ces derniers mois à Port-au-Prince. Je vous invite, madame, monsieur, à visiter le site du gouvernement du Canada, voyage.gc.ca/destination/Haïti. Beaucoup de commentaires et réactions suite à notre émission de la semaine dernière, entre autres l'information de Radio-Canada sur le fait français à Toronto, un article signé Michel Bolduc. Beaucoup d'auditeurs se demandent pourquoi Toronto est à la traîne au niveau de son image d'être une ville ayant un riche patrimoine francophone. Un autre sujet qui fait débat, Pierre Ouellet, nouveau recteur de l'Université de l'Ontario français, certains membres consultants du CA de cet organisme, très très mal accueilli par certains francophones. Et place maintenant, madame, monsieur, à une nouveauté du Québec, Pat Grou et les Bas Blancs, profondément généreux, authentiques dans tout ce qu'il entreprend. Patrick Grou est un touche-à-tout talentueux qui charme instantanément le public. L'humoriste, qui se plaît également à porter les chapeaux de musicien et animateur, innove depuis plus de 20 ans. Je vous invite à découvrir son nouveau succès très coté sur C'est quoi FM à Montréal. Tout le monde de War, eh oui, Pat Grou et les Bas Blancs. Je vous invite à vivre l'été au rythme du monde avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM.
Hey, c'est enfin le temps de sortir dehors. Sortir de nos maisons, aller respirer l'air, les fleurs et le gazon, prendre du soleil, courir partout, comme des marmottes sorties de leur trou. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis confiné. Y'a bien des choses maintenant, je te jure, je vais apprécier. Je nous ai sentis tellement fragiles. Tu vois, la vie ne tient qu'à un fil. De Gaspé, de Québec ou de Val d'Or, on s'est pas vu depuis longtemps. T'es bien plus beau en vrai que dans un écran. Je
peut dire qu'on offre au lit la catastrophe. Et en étant, je nous ai jamais senti si proche. Maintenant, mon rêve le plus précieux, c'est d'aller me faire couper les cheveux. Je sais qu'on n'a pas complètement fini le combat. Peut-être que bientôt, on pourra se prendre dans nos bras. Mais pour l'instant, j'ai juste envie de gambader jusqu'à la nuit. Maintenant, tout le monde dort. Que tu viennes de Gaspé, de Québec ou de Val d'Or, on s'est pas vu depuis longtemps. T'es bien plus belle en vrai que dans un éclat.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Découvrez Radio Player France. Radio Player, c'est une nouvelle façon de penser, de consommer et d'aimer la radio. C'est une application qui réunit le meilleur des radios françaises, des web radios et des podcasts. C'est un projet commun réunissant les six principaux groupes de radios françaises. Altice Média, Lagardère News, les Indé Radios, les radios du groupe M6, Énergie Group et Radio France. Mais c'est surtout une ouverture pour tous, avec un contenu énorme, complet et entièrement gratuit. Avec des offres localisées et un modèle prédictif basé sur l'écoute des auditeurs. C'est pour tous les usages, partout et à tout moment. C'est sur tous les supports. Smartphone, ordinateur, enceinte connectée et assistants vocaux, Smart TV et voiture. Avec en plus une qualité de son inégalée. Radio Player France, l'appli de toutes les radios, gratuite et accessible à tous.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Le plan de vaccination de l'Ontario contribue à freiner la propagation et à sauver des vies. Bientôt, ce sera votre tour. Renseignez-vous sur le plan de vaccination de l'Ontario, payé par le gouvernement de l'Ontario.
Yeah. Moi, je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lédoc Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lédoc Fondation Diversity Our Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lédoc. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média, Croix-Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann, la thérapeute, a déjà fait ses preuves. Yann, la thérapeute, possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann, la thérapeute, dans CUT 89,5 FM, Popourri Chaud. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437 775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy en partenariat avec Popourri Chaud et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Chaud et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca. Histoire sans frontières. 2 minutes d'histoire, mais de quelle histoire parlons-nous? Qu'est-ce que le congé civique Simcoe? Y a-t-il une politique du passé colonial? De nos jours, des activistes, des éducateurs et des parents réclament qu'il y ait des programmes de l'histoire des peuples autochtones et des Noirs obligatoires dans les écoles au Canada. Êtes-vous pour ou contre? Le grand et spectaculaire défilé du Carnaval caribéen de Toronto, le Carnaval des Caraïbes, annulé encore cette année pour cause de pandémie. Mais pourquoi Caribana est-il célébré lors du long week-end Simcoe au mois d'août? Cette fête célébrée le premier lundi du mois d'août, donnant à de nombreux Canadiens un long week-end au milieu de l'été, est connue sous plusieurs noms. Simcoe en Ontario est célébré en l'honneur du premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada et de l'homme qui a initié l'abolition de l'esclavage au Canada. Elle est aussi célébrée en Colombie-Britannique, dans la province la plus à l'ouest du Canada et en Nouvelle-Écosse. Une histoire sans frontières. En 1869, la ville de Toronto est devenue la première à introduire la fête Simcoe Day lorsque le conseil municipal de Toronto a demandé des vacances d'été pour une journée de récréation. En 1875, le conseil municipal fixe le premier lundi d'août comme jour férié. Ce n'est pas un hasard si dans tous les endroits, le nom de Simcoe résonne encore dans le sud de l'Ontario. En ces temps où on remet en question les références historiques du Canada et les noms de certaines rues telles que Dundas Street à Toronto, il est à constater que Simcoe était un partisan connu de l'abolition de l'esclavage. En effet, son projet de loi a été provoqué par un incident. L'incident de Chloé. Simcoe a appris qu'un propriétaire d'esclaves abusait violemment de son esclave, une fille du nom de Chloé, alors qu'elle traversait la rivière Niagara, où il allait la vendre aux États-Unis. On a dit que ces cris ont été entendus par beaucoup et que l'affaire a été portée à l'attention de Simcoe par Peter Martin, un ancien esclave. La tâche de Simcoe n'allait pas être si simple, car de nombreux membres de l'Assemblée législative de l'époque possédaient leurs propres esclaves et résistaient ainsi à la tentation de Simcoe d'abolir l'esclavage au Canada. La loi qui en résulta était un compromis qui conduirait progressivement à la fin de l'esclavage. La loi a permis aux propriétaires d'esclaves de maintenir la main-d'œuvre qu'ils avaient déjà, d'y rester jusqu'à leur mort. Les propriétaires n'étaient pas autorisés à acheter de nouveaux esclaves aux États-Unis et tous les enfants d'esclaves nés après l'adoption de la loi deviendraient libres à l'âge de 25 ans. La loi anti-esclavagiste de Simcoe a été la première à être adoptée dans une colonie britannique et est restée en vigueur jusqu'au 24 août 1833, lorsque la loi britannique sur l'abolition de l'esclavage a mis fin à l'esclavage dans la majeure partie de l'Empire. Bien que le nom ne soit seulement cimenté qu'à Toronto, toute la province de l'Ontario consacre la fête civique au jour de l'émancipation depuis 2008. Depuis 1969, Toronto accueille chaque année le Carnaval des Caraïbes, ou comme on l'appelait autrefois, Caribana. Henry a déclaré que les traditions du festival sont liées aux célébrations du jour de l'émancipation de certains Canadiens en ramenés de leur ancien pays d'origine. Chaque année, le festival de la gastronomie, des costumes, de la musique et de la danse attire plus d'un million de personnes et des retombées économiques énormes sur l'Ontario. Malgré la pandémie cette année, toute l'équipe de la radio vous souhaite un temps mémorable, en toute sécurité, avec le Carnaval des Caraïbes. C'était Histoire sans frontières, une présentation de Popouré Show sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
La vie, la lettre, qui j'en ai fait pour que ça tombe. C'est clair, c'est médicament, mon ami.
Eh oui, après avoir vécu pendant des mois avec une vie sociale restreinte, privée de nos amis, de culture et de loisirs, il est plus que jamais essentiel de renouer avec la vie d'avant. C'est pourquoi cet été, pour vous remonter le moral, Popouré Show vous propose des expériences uniques. Une programmation musicale enlevée, rythmée, festive, lumineuse, en partenariat avec le Festival Compazou, Ontario. Tout l'été, Popouré Show mettra en valeur des circuits courts, la culture populaire, sous toutes ses formes, en vous parlant de l'humour, de théâtre, de cinéma, de festivals et de musique, à La Rochelle, à Montréal, à Québec et à Toronto. Cet été, gardez le tempo. Prenez la route des vacances chaque dimanche avec Popouré Show et le Festival Compazou Ontario sur CUT 89,5 FM. C'est le médicament pour remonter votre morale. Petit détour à Québec. Le Festival d'été de Québec déclare mission accomplie. C'était du 8 au 15 juillet. La ville de Québec a présenté 22 spectacles. Parmi les artistes invités, Ludovic Bourgeois, Cœur de Pirate, que vous entendez en ce moment, Paul Pichet, Steve Hill, Alexandre Barrett, Clay and Friends, Apache et Tire le Coyote. Pour le correspondant de TV5 Monde, c'est vraiment un symbole. C'est un retour à la normale qui s'en vient. Après Paris, avec le groupe Indochine, c'est au tour de Québec de préparer son premier événement supervisé pour se rapprocher le plus de ce qu'était la vie des événements post-pandémie. Eh oui, l'Université Laval sera de la partie et réalisera un protocole de recherche qui entourera les deux spectacles de 20 000 et 5 000 personnes en septembre prochain. Petit détour sur la croisette à Cannes. Après 15 jours de projection, de rues pleines de cinéphiles en smoking et robes de soirée et de discussions animées autour de la sélection, le Festival de Cannes s'est achevé dimanche soir dernier. Julia Ducournau est devenue la deuxième réalisatrice à remporter la Palme d'Or du Festival de Cannes. Elle est récompensée pour son film Titane, œuvre résolument contemporaine qui a beaucoup remué les critiques à cause de certaines scènes ultra-violentes. Je vous invite, madame, monsieur, à un reportage exclusif mettant en vedette le premier film haïtien qui a connu beaucoup, beaucoup de succès au Festival de Cannes. Freda, de Jessica Genevus, a été ovationné lors de sa projection dans la catégorie Un certain regard, un premier long métrage qui résonne avec l'actualité haïtienne. Invitée du journal d'Haïti et des Amériques, la réalisatrice nous explique comment son film nous aide à comprendre le poids de la politique sur le quotidien des Haïtiens. Jessica Genevus était dans le journal d'Haïti et des Amériques sur Radio France Internationale.
D'Haïti et des Amériques, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 9h10, à Port-au-Prince comme à La Havane. Le régime castriste vit-il ses dernières heures à Cuba ? Parole aujourd'hui à un opposant après les manifestations historiques du week-end dernier. Pas de troupes américaines en Haïti, Joe Biden s'y refuse après l'assassinat de Jovenel Moïse. Une actualité, une insécurité en Haïti qui résonne avec le film Freda de Jessica Genevus en compétition au Festival de Cannes, la réalisatrice. Et notre invité aujourd'hui, ce sera juste avant de vous retrouver Benoît Ferrand pour le journal de la première. Il va falloir maintenant une bonne raison pour voyager entre la Martinique et la métropole.
Eh oui, à partir de mercredi prochain, 21 juillet, il faudra de nouveau présenter un motif impérieux pour voyager entre Fort-de-France et Paris, sauf évidemment si on est totalement vacciné.
Et on en parle tout à l'heure. Benoît, bienvenue à tous.
RFI à Port-au-Prince. 89.3 FM.
La communauté internationale qui préfère attendre 10 jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse et malgré les appels du premier ministre intérimaire Claude Joseph, l'envoi de troupes américaines en Haïti n'est pas à l'ordre du jour. C'est ce qu'a assuré hier le président des États-Unis Joe Biden.
Concernant les éventuelles circonstances dans lesquelles nous enverrions des troupes en Haïti, sachez que nous envoyons uniquement des marines américains à notre ambassade pour assurer qu'elle est sécurisée et qu'elle reste sous contrôle. Mais l'idée d'envoyer des forces américaines en Haïti n'est pas à l'ordre du jour actuellement.
Et parier sur la même longueur d'onde d'une intervention militaire n'est pas d'actualité, dit ce matin le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui plaide toutefois pour l'envoi de policiers internationaux sous l'égide de l'ONU. Sur place, à Port-au-Prince, l'enquête se poursuit. À en croire la presse américaine, une dizaine de mandats d'arrêt pourraient être émis par la police nationale haïtienne contre des suspects. La presse colombienne, elle, Romain, publie les images exclusives de Jovenel Moïse après son assassinat.
Oui, une exclusivité de la revue Semana, très présente sur ce dossier. Ce média dit avoir récupéré des clichés pris quelques minutes après l'assassinat du président haïtien, mais s'abstient de les publier par respect pour la famille de Jovenel Moïse et pour son pays. Des photos qui démontrent la violence des faits, selon Semana, qui publie tout de même les radiographies réalisées par la suite. Pour Semana, le président a été torturé par les mercenaires, certainement pour obtenir sa démission. Semana explique par ailleurs que le président et sa femme avaient compris que des personnes s'étaient introduites dans leur maison avant que les mercenaires n'entrent dans leur chambre, un laps de temps qui a permis à Martine Moïse d'aller mettre à l'abri leurs enfants avant de revenir dans la chambre et d'être elle aussi victime des tirs de ce commando.
Une autre information en provenance de Bogota, Romain, selon le président colombien, les mercenaires savaient qu'ils avaient pour objectif de tuer le président haïtien.
Oui, c'est ce qu'Ivan Duque a affirmé hier sur une radio colombienne, détaille le Miami Herald. Selon lui, si une partie du groupe de mercenaires pensait réaliser une mission de protection, un autre petit groupe de mercenaires avait pour objectif d'assassiner le président. Ivan Duque se base sur les déclarations d'un ancien soldat colombien qui était présent en Haïti, mais qui depuis est revenu en Colombie et qui aurait fait ses révélations à la justice locale. Officiellement, on ne connaît pas l'identité de ce militaire, mais selon le Miami Herald, il pourrait s'agir de l'ancien capitaine de l'armée colombienne, Germán Alejandro Rivera Garcia, qui aurait reçu un virement de $50,000 en provenance des États-Unis. L'enquête avance et Ivan Duque a tenu hier à saluer la coopération entre les deux pays pour tenter de faire la lumière sur ce dossier explosif.
Hier, c'est le média colombien Noticias Caracol, on en parlait, qui révélait que d'après les informations, Claude Joseph, le premier ministre intérimaire, était l'un des instigateurs de l'assassinat. Information démentie hier soir par la police haïtienne de la pure manipulation selon son chef, comme le rapporte Le Nouvelliste, qui nous apprend aussi que la police police colombienne a démenti ces allégations. Le Nouvelliste qui publie ce vendredi à sa une la photo sur le tapis rouge de Cannes de l'équipe du film Freda, le premier long métrage de la réalisatrice haïtienne Jessica Généus, en compétition dans la catégorie Un certain regard. Film projeté mercredi, acclamé, 8 longues minutes de standing ovation, on s'en réjouit le Nouvelliste. Et Jessica Généus, avec laquelle s'est entretenue Sophie Torlotin, impossible d'abord de ne pas évoquer la situation haïtienne, l'insécurité évidemment avec elle, l'assassinat de Jovenel Moïse.
C'est vrai que c'est une actualité brûlante, elle est récente et en plus c'est le premier citoyen et Jovenel Moïse, mais cette situation elle existe tellement depuis longtemps et plus récemment, particulièrement par rapport aux émeutes qu'il y a eu, anticorruption, bien sûr il y a eu plein de vols au niveau de l'État. Et juste avant, 2 jours avant son assassinat, 14 personnes ont été assassinées à Delma 32, qui est un quartier populaire de Port-au-Prince, et dont une que je connaissais, Antoinette Duclerc. Donc, c'est inévitable. On est tous en danger dans ce pays. Et malheureusement, il n'y a pas eu assez d'investissement du gouvernement pour que ça s'arrête, quoi. Et ce climat d'insécurité, malheureusement, a atteint au plus haut niveau de l'État.
Et la semaine dernière, juste après l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a l'écrivain Jean d'Amérique,
oui,
qui a publié une tribune dans Libération, oui, et disant que la situation en Haïti, je cite, avait fini par tuer les vivants, mm-hmm, et qu'il n'y avait plus dans le pays que des morts vivants. Est-ce que vous partagez ce sentiment?
Je vois d'où il vient avec ça, parce qu'en effet, surtout en ce moment, les gens sont complètement cassés. Et donc forcément, ça crée une situation où tu as l'impression d'être une loque humaine et que tu fais juste fonctionner quotidiennement. C'est vrai que l'incertitude fait partie du quotidien humain, mais dans ces cas-là, dans un pays comme Haïti, l'incertitude devient quasiment quelque chose de trop flagrant et ça t'empêche de te projeter. Donc forcément, le film nous ramène à ça. Le film nous aide à comprendre comment que la politique à son poids extrêmement lourd sur notre quotidien, des détails, hein, et tout va bien et tu veux sortir demain matin et les rues sont bloquées. L'idée avec Freda, c'était d'essayer de faire comprendre à quel point rien n'est isolé. C'est-à-dire qu'il y a l'actualité, il y a le gouvernement, il y a tout ce qui se passe, mais bien évidemment, ça a un impact extrêmement lourd sur le quotidien de chaque Haïtien. Et même s'ils sont à la résilience, ben oui, il y a des moments où les gens sont cassés et ils n'en peuvent plus.
Comment on va à l'hôpital, ça n'a fait.
Comment on va à l'hôpital, ça n'a fait. On va pas pouvoir inviter pour une
carrière. On va aller à l'hôpital, on va aller à l'hôpital. On va aller à l'hôpital.
Et justement, dans Freda, votre premier long métrage, Jessica Généus, on voit plusieurs femmes, évidemment Freda, étudiante en anthropologie, sa sœur, la belle Esther, qui compte, elle, épouser un homme riche, un député qu'on soupçonne corrompu,
oui,
et pour pouvoir, elle, s'en sortir. Puis il y a leur mère, Jeannette, qui survit difficilement grâce, oui, à son échoppe. Et Freda est partagée entre le désir, peut-être l'envie de partir rejoindre son petit ami à Saint-Domingue,
oui,
et puis le devoir, rester, s'occuper de sa famille,
oui,
et puis s'occuper de son pays.
Exact. Et je pense que c'est la question qui taraude dans la tête de chaque Haïtien aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore l'énergie de continuer, d'y croire? Parce que des éléments ne nous sont pas donnés pour le faire. Et on peut difficilement être dans l'espoir si cet espoir est constamment mis à l'épreuve, ou constamment nous est ravisé. On nous le prend à chaque fois. Donc oui, ces femmes, parce qu'on me dit pourquoi les femmes? Je dis pourquoi pas. Mais deuxièmement, surtout parce que j'ai grandi autour des femmes. J'ai grandi avec ma mère, une famille monoparentale. Enfin, Freda, c'est moi, c'est Néhémie, c'est tout le monde, c'est plein de jeunes femmes en Haïti.
Et c'est un film où on voit les personnages se débattre avec une réalité dure, avec une insécurité permanente. Mm-hmm. On ne sait jamais d'ailleurs d'où peut venir une balle. Hein. Il y a, mm-hmm, le petit ami de Freda, lui, qui s'est pris une balle perdue en pleine nuit.
Mm-hmm.
Ça, c'est le quotidien à Port-au-Prince.
J'ai une anecdote qui n'en est pas une, absolument pas une, mais j'ai un ami. On était tous en train de se parler et puis il raconte, lui il était juste assis, il discutait avec ses copains, il rigolait et puis à un moment donné il sent un truc chaud dans son dos. Et là, comme il y en avait un qui fumait, il a cru que c'est lui qui avait brûlé avec sa cigarette, puis grosse discussion, mais non tu m'as brûlé, là, là. Et après quand tout le monde a été regardé plus près, ben, c'était une balle. Et ça je te dis ça, mais c'est des milliers de situations comme ça tous les jours. Même ceux qui sont à la fac dans Freda, pareil, ils vivent dans des quartiers constamment, ils reçoivent des projectiles dans les murs, des fois ça atteint des gens, mais des fois ça atteint les maisons, des fois ça provoque d'autres catastrophes, c'est-à-dire ça peut provoquer des coupures d'électricité ou tout simplement l'explosion d'un de transformateurs électriques, donc qui crée d'autres accidents beaucoup plus graves encore sur beaucoup de gens. Donc c'est, oui, c'est l'insécurité constamment. C'est pas l'insécurité seulement alimentaire, mais l'insécurité, voilà quoi, en tant qu'être humain, de se dire comment on va pouvoir rester vivant.
Vous avez filmé, Jessica Généus, pendant les, justement, vous parliez des manifestations anticorruption. Oui. Vous avez, il y a des images, de manifestations. Ça, c'est des images tournées sur le vif?
Oui. Oui, parce que depuis 2018, parce que les émeutes anticorruption se sont vraiment grossi après 2018, après que la fameuse question où est l'argent de Petro-Caribé, qui est le plus gros scandale de corruption qui a été fait en Haïti. Et donc, à partir de ce moment-là, j'allais toujours dans les manifs, mais à partir de ce moment-là, j'allais beaucoup plus souvent. Parce qu'on était tout le temps dehors. Et des fois, c'est moi qui filme. Des fois, je demande à des amis, parce que j'ai plein d'amis autour de moi aussi qui sont journalistes, qui filment. Des fois, si je suis pas en Haïti, je demande à mon chef opérateur, qui est haïtien, Marco Saint-Just, de filmer des manifs. Donc, on se relayait comme ça. Mais je savais pas encore comment ça allait exister dans un film. Mais je me disais, de toute façon, il faut qu'on soit dans la documentation, parce que c'est en créant cette base de mémoire qu'on va comprendre les combats qui ont été menés, et que ça va nous permettre de rebondir aussi pour les combats de l'avenir.
Et tout ça, c'est dans le film Freda de Jessica Généus. Le palmarès à Cannes, c'est demain. On suivra bien sûr le parcours de son film.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
Ils sont de retour. À partir de mercredi prochain, il faudra de nouveau avoir un motif impérieux pour voyager entre la Martinique et la métropole.
Eh oui, à partir du 21 juillet, donc mercredi prochain, vous l'avez dit, motif impérieux indispensable pour prendre l'avion entre Fort-de-France et Paris, sauf bien sûr si l'on est totalement vacciné, mais on le sait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bref, une mauvaise nouvelle pour les personnes concernées et aussi pour les compagnies aériennes qui comptaient évidemment sur la période des vacances pour se refaire une petite santé financière. Écoutez Johan Paulin, directeur général délégué de la compagnie Air Caraïbes. Il est avec Grégory Gabour.
Bah écoutez, pour le moment, on ne constate pas d'annulation massive, ni non plus de demande de remboursement. C'est vrai qu'on a permis à nos clients, par la modification de nos mesures commerciales, de modifier leurs dates sans frais supplémentaires. On va répondre à la demande de modification pour leur permettre de décaler leurs dates en attendant qu'ils aient un parcours vaccinal complet. C'est un coup de massue parce qu'en effet, depuis un an et demi, toutes les compagnies aériennes traversent de grosses difficultés financières par rapport à cette crise, et on espérait pouvoir avoir beaucoup de passagers sur la partie juillet-août. On avait de bonnes réservations, on avait rajouté des vols, on avait un programme de vol avec quasiment deux vols par jour et des fois jusqu'à trois vols par jour au départ de Paris vers la Martinique.
Un autre responsable de compagnie nous a dit lui aussi se poser beaucoup de questions. Il faudra sans doute une nouvelle fois faire le dos rond, nous a-t-il dit un brin dépité, car la situation commence à devenir franchement préoccupante pour les compagnies qui desservent nos territoires. L'une d'entre elles affirme avoir perdu ces 18 derniers mois l'équivalent de 4 à 5 années de profit.
En bref, la commission d'enquête parlementaire relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences a rendu son rapport adopté à l'unanimité, qui contient 76 propositions, dont 9 qui concernent spécifiquement la Guadeloupe. La commission valide la création du syndicat mixte unique de l'eau dans le département et réclame également l'annulation des factures d'eau non réglé à la date du 1er septembre. Bonne fin de journée, Mickaël. Bon week-end. À lundi.
À lundi, Benoît Ferrand, à vous et à toutes les équipes de la première. Ainsi s'achève cette semaine du journal d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Très bon week-end à tous. Retrouvez-nous aussi sur RFI Pure Radio. À lundi.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Les mensonges, c'est le bédot d'église, c'est le fric du village, ils disent tout le temps, please, au curé, et détonné de l'entendre.
Bienvenue à Toronto, bienvenue en Ontario. Nous sommes plus de 700 000 francophones en Ontario, mais nous ne sommes pas sortis du bois. Eh oui, Toronto et toute l'équipe vous souhaitent une très belle journée. Salutations chaleureuses aux auditeurs de la région de Montréal. Ils sont nombreux qui nous écoutent. Laval, ville de Laval, l'île de la Réunion, l'île Maurice à Port-Louis. Ils sont nombreux à sintoniser CUT chaque dimanche. C'est 19h, hein, je pense, là-bas. Et à Trois-Rivières, au Québec. Bien le bonjour à Michel qui nous écoute à Lyon. Toulouse, Jean-Yves, et oui, et les auditeurs en Suisse, ah oui, ils sont nombreux. Justement, il y avait le festival de jazz de Montreux qui a pris fin sur une note assez positive la semaine dernière. Si tout va bien, nous y serons l'année prochaine.
J'ai pas vraiment bu, au contraire, j'étais attendu, un fois dans la rivière qui m'a parlé.
Et oui, du 8 au 15 août 2021, madame, monsieur, je vous invite à voyager en Acadie. Et d'ailleurs, un vent d'Acadie soufflera sur Courseulles-sur-Mer en France. Une première et ne manquez pas l'édition spéciale, le Grand Tintamarre de Caraquette, en direct à l'antenne, le dimanche 8 août. Eh oui, à ne pas rater. Le festival acadien est l'événement phare de l'Acadie et des provinces de l'Atlantique. L'ensemble de la programmation est disponible sur festivalacadien.ca. C'est la grande fête nationale pour les Acadiens, comme vous le savez, le 15 août. Alors à ne pas rater, le 8, on vous donne rendez-vous dès 11h. En Ontario, des parents en colère, ils sont toujours sans nouvelles du gouvernement de l'Ontario sur le plan pour la rentrée des classes en septembre. Eh oui, c'est du cafouillage. VIH-SIDA, selon une récente information, il y aurait présentement des milliers de personnes séropositives qui ignorent leur état au Québec, un phénomène accentué par la pandémie qui a accaparé pour la COVID-19 les effectifs de dépistage du VIH. Toujours dans la même veine, le VIH augmente le risque de formes graves de COVID-19 selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi les immigrants quittent le Canada? C'est un reportage en préparation bientôt à l'antenne. The talk of the town. Le président Emmanuel Macron a remis lundi 19 juillet les insignes de commandeur de la Légion d'honneur au référent Jesse Jackson, défenseur infatigable de la communauté noire américaine et des valeurs de justice et de diversité. Les valeurs pour lesquelles vous vous êtes battus sont les mêmes que celles de la République française. Vous êtes notre frère, a déclaré le chef de l'État français en lui remettant avec une grande joie la plus haute distinction française. Je suis très reconnaissant de recevoir une décoration aussi prestigieuse de la part de la grande aimée nation française, a réagi Jesse Jackson. Le pasteur de 79 ans a également joué un rôle dans la libération d'otages français pendant la première guerre du Golfe en 1990. Notre ami et fidèle collaborateur dans la région de Toronto, Darnas Toroux, enseignant, eh oui, il attire notre attention sur ce grand scandale du siècle, espionnage à grande échelle des journalistes et même le président Macron, ciblé par un logiciel espion basé au Maroc. Enquête ouverte, des politiques annoncent à déposer plainte. Pegasus, un scandale inédit et une attaque contre la presse. Bientôt à l'émission. Ne manquez pas la deuxième heure, notre coup de cœur littéraire et l'artiste haïtien qui vit à Montréal, Richie J, nous présente son nouveau vidéoclip Vida Loca pour nous garder dans le tempo des tropiques. Et je vous rappelle, mesdames, messieurs, que cette année, nous célébrons 40 ans de permanence au Canada, 34 ans à l'antenne, au mois d'août. Soyez parmi nos invités tout au long de l'été. Envoyez-nous un message à popourri@cut.fr. Nous avons une petite surprise pour vous et un t-shirt de CIUT, définitivement garanti. Visitez notre nouvelle page ciut.fm/en français. Popourri Show, seule émission en français sur CIUT 89.5 FM Toronto.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano. Dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grand côté perdu sous ton pouce
et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite. Ton corps qui va bientôt mourir, reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Oublier ton cul et craindre de beauté perdue sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens mon laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. 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 Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Un fox non féminin. Fausse information, ensemble de procédés contribuant à la désinformation du public. À France 24, notre travail est de vous donner une information de qualité. Notre rigueur, notre indépendance nous permettent de discerner le vrai du faux.
Avec Info ou Intox, apprenez à repérer par vous-même les fausses images sur les réseaux sociaux.
Chaque semaine dans Contrefait, on débusque les fausses nouvelles qui concernent l'Europe, on vérifie, on rectifie.
Au quotidien, sur le site d'Infomigrants, nous combattons les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux sur la réalité de la migration.
France 24, l'info certifiée.
Liberté, égalité, actualité. France 24 est la première présente. Découvrez votre nouveau magazine d'information consacré aux territoires et départements d'outre-mer. France 24 et la première s'associent pour vous présenter des reportages inédits au cœur de la population et des sociétés ultramarines. Décryptage de toute l'actualité marquante de la semaine, analyse et partage de connaissances. Partez à la découverte des richesses des territoires d'outre-mer sur France 24 et France24.com.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com. et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Événement. Les meilleurs sons de la planète Afrique vont vous faire vibrer sur TV5 Monde.
Platine Africa.
Platine Africa.
C'est parti.
Un nouveau rendez-vous musical incontournable.
Sucré, pimenté, rien que pour vous.
Caraïbes, Amérique, Afrique. Sur scène, les plus grands artistes et les nouveaux talents, orchestrés par la chanteuse franco-camerounaise Sandra Nkake. Platine Africa, gardez le tempo sur TV5 Monde.
Runway. Après avoir vécu pendant des mois avec une vie sociale restreinte, privée de nos amis, de culture et de loisirs, il est plus que jamais essentiel de renouer avec la vie d'avant. C'est pourquoi cet été, pour vous remonter le moral, Popourri Show vous propose des expériences uniques, une programmation musicale enlevée, rythmée, festive, lumineuse, en partenariat avec le festival Compazou Ontario. Tout l'été, Popourri Show mettra en valeur les circuits courts et la culture populaire sous toutes ses formes, en vous parlant de l'humour, de théâtre, de cinéma, de festivals, de musique à La Rochelle, à Montréal, à Québec et à Toronto. Cet été, gardez le tempo. Prenez la route des vacances chaque dimanche avec Popourri Show et le Festival Compazou, Ontario, sur CUT 89,5 FM. C'est le médicament pour remonter votre morale.
Le livre du jour. Place à la littérature qui colle bizarrement à notre réalité qu'on n'est pas prêt d'oublier. Si je vous disais qu'en 1518, la ville de Strasbourg a connu une effroyable maladie, une épidémie dansante, c'était comme une rêve partée. Mais le problème, ça ne s'arrêtait jamais. Il y a eu des morts, on en parle, même aujourd'hui. Entrée dans la danse du français Jean Tellet, aux éditions Julliard. L'écrivain explique que cette histoire, qui devait être très connue, a été étouffée par l'Église catholique. Le clergé s'était mal comporté. 2 ans après cette épidémie de danse, le catholicisme a été foutu à la porte de Strasbourg pendant 150 ans et c'est la réforme des protestants qui a pris la ville. Entrée dans la danse, un livre que je vous recommande de l'écrivain français Jean Tellet, auteur d'une quinzaine de romans. Il était l'invité du magazine Le Réveil Culturel sur France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Mexico. Et tous les lundis, c'est l'actualité des livres. Et aujourd'hui, je reçois Jean Tellet. Vous l'avez bien sûr reconnu. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour.
Et je vous présente Auriane Jeancourt, ma partenaire du magazine Transfuge.
Elle a l'air sympa.
Et tous les mois. Et vous savez quoi? Tous les mois, on partage nos coups de cœur sur France Culture.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
C'était un vendredi 12, mais il vaut tous les vendredis 13 de ces 500 dernières années. Le pire jour de la pire période qu'ait connue Strasbourg. La misère noire, les catastrophes cosmiques, ouais, la déchéance humaine, on en est à tuer et à manger ses propres enfants quand une nouvelle épidémie fait son apparition dans ce champ de ruines. Des gens désespérés se mettent à danser, sans s'arrêter, sans pouvoir s'arrêter, comme s'ils étaient possédés. En sueur, en transe, ils dansent jusqu'à la chute, jusqu'à la mort. C'est un mal étrange et contagieux. Ils sont de plus en plus nombreux à être aspirés par cette danse macabre, une danse des damnés de la terre. Et ça va durer des jours, des semaines. C'était il y a 500 ans, Jean Tellet revisite cet épisode dans Entrée dans la danse, un livre édité chez Julliard. Et tout est vrai, bien sûr. Sauf que c'est un roman, donc vous avez romancé.
Oui, bien sûr, c'est un roman, mais
tous les faits sont vrais, tous les noms sont réels, le nom du maire, le nom de l'évêque, le nom des médecins, des astrologues, les événements, on sait dans quel ordre ils sont produits, et donc j'essaye d'être au plus près de la réalité qu'on connaît, mais évidemment c'est un roman, parce qu'il n'y avait personne pour enregistrer ce que les gens se disaient, et donc voilà.
Donc vous avez imaginé des dialogues par exemple?
Ouais.
Et pourtant cet événement a été très suivi, très documenté, vous dites même, Jean Tellet, que William Shakespeare en parle aussi.
Oui, et lui avait appelé ça The Dancing Plague, qui veut dire donc la peste dansante, et c'était bien vu, et c'est une histoire qui normalement devrait être célébrissime en France, tout le monde devrait connaître cette histoire, mais ça a été tellement la honte du clergé en 1518 que le clergé a appuyé là-dessus, soit pour essayer d'effacer le plus possible cette histoire ou la minimiser au maximum. Et d'ailleurs, 2-3 ans après 1518, que comme le clergé strasbourgeois s'est comporté de façon immonde, le protestantisme a déboulé et a chassé le catholicisme de Strasbourg pendant 150 ans.
Ah oui, parce qu'en plus, on est en plein intégrisme religieux. Alors, à cette époque du Moyen-Âge, Strasbourg appartient au Saint-Empire romain germanique, c'est ça?
Oui, et puis en plus, c'était une ville libre. On appelait ça une perle républicaine. Et d'ailleurs, ils battaient leur propre monnaie. Il y avait les Florins strasbourgeois et tout. Et le maire de la ville, qu'on appelait un Ameister, était aussi donc le chef du gouvernement. C'était renouvelé tous les ans. On choisissait quelqu'un parmi une corporation des métiers, les métiers du bois, de la bouche, de l'orfèvrerie, je sais pas quoi. Et le type était maire pour un an. Et ce Andreas Dragenfels, il me fait rigoler parce que il est vraiment tombé maire, mais alors l'année exacte où il fallait pas l'être.
Surtout pas, ouais.
Et il a essayé de tout faire pour empêcher les gens de danser, que ça s'arrête, ce truc de...
Mais au moins,
de
il aura tout essayé. Hein.
Ouais, et il s'entendait absolument pas avec l'évêque Guillaume de Hohenstein, qui lui était un beau taré. Il avait notamment une manie, c'est que tous les matins, il ne se lavait le visage qu'au lait de paroissienne. Déjà, c'est un bon con. Et puis, dans la cathédrale, il y avait une relique à laquelle il tenait beaucoup, et il voulait faire croire à tout le monde qu'elle était vraie. C'était une goutte de lait de la Sainte Vierge. Alors moi, je dis, il faudrait bien un jour qu'on m'explique qui a pris une goutte de lait de la Vierge, comment il l'a fait, comment il l'a rangée, et comment un millénaire et demi après, on voit cette goutte dans une sorte d'éprouvette. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en plus, c'était au moment où... Léon X faisait construire la basilique Saint-Pierre de Rome, et où il y a eu ce truc incroyable de vente d'indulgences. Donc les indulgences, si on donnait de l'argent au clergé, ça vous faisait, plus on en donnait, plus ça vous faisait des réductions de temps de purgatoire ou d'enfer, quoi. Et les gens qui, comme vous le disiez, qui à Strasbourg à cette époque-là, on était soit à balancer leur môme à la rivière parce que les femmes,
ouais,
quoi,
ça
avaient fini d'allaiter,
ou
même à bouffer leur môme, ils pouvaient pas donner de l'argent, et ils étaient menacés par le clergé d'être enterrés sur une colline en dehors des remparts qu'on appelait la colline du Bourreau, qui était la seule terre non bénite de Strasbourg, et donc c'était enfer à perpétuité. Donc les gens, ils devenaient dingues, quoi, au point de danser.
Alors, vous connaissez cette histoire depuis longtemps? Vous êtes alsacien, Jean Tellet?
Non, je suis pas alsacien, j'ai appris cette histoire de façon très curieuse, me rappelle très bien, c'était en 2016, j'allais à la foire du livre de Brive, en prenant ce fameux train que tous les écrivains appellent le train du cholestérol. C'est un train rempli d'écrivains, de journalistes littéraires. On arrive à 9h à la gare de Serlitz. À 9h30, on commence dans le train à nous servir des apéritifs à l'alcool de noix, de la Corrèze, machin. Après arrivent les foie gras, les confits, tout ça est arrosé de vin. À 11h30, déboule en digestif la vieille prune de Souillac. Tous les écrivains sont torchés. Et là, je vois un jeune type qui s'appelle Julien Bisson, qui était le rédacteur en chef du magazine Lire, qui arrive avec des yeux brillants et qui me dit « Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518 ?» Je regarde ses yeux, je me dis donc c'est lui le mec le plus bourré du train. Et bien il me dit « J'ai entendu 2-3 mots là-dessus sur une radio » et je me suis tout de suite dit « C'est un roman pour Jean ». Moi, je rigole, et puis dans la journée, je fais mes machins, puis le soir, je repense repense à ce que j'avais pu faire dans la journée, puis je repense à, notamment aux phrases que m'avait dit Julien Bisson. Et je m'amuse à taper sur Internet Strasbourg, danse 1518, et là je tombe sur une chronique alsacienne, directement sur une chronique alsacienne de l'époque, qui disait « Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg, de telle sorte que dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit sans interruption pendant 2 mois, jusqu'à tomber inconscient, beaucoup sont morts. » Et là je me dis, mais putain, c'est vrai cette histoire.
Et vous avez fait comme d'habitude, vous avez plongé une fois de plus dans les archives pour restituer, avec vos mots, votre parler souvent, en tout cas votre regard des événements qui ont marqué justement durablement. Enfin, quand je dis ils ont marqué durablement, vous m'avez dit en début d'émission, Jean Tellet, qu'à Strasbourg, on a oublié déjà cette histoire.
Mais oui, mais ouais, presque, moi j'y suis allé évidemment plein de fois à Strasbourg, mais presque personne était au courant de cette histoire. Mais cette année, je crois que ça va être en septembre, au musée de l'œuvre Notre-Dame, juste à côté de la cathédrale, ils vont faire une grande expo sur cette danse de 1518. Et l'adjoint à la culture de la mairie m'a demandé de venir pour l'expo et m'a promis qu'on allait déclencher une flash mob devant la cathédrale. Et alors là, ça va rappeler, ça peut être une danse de dingue, et ça, c'est assez marrant, ça me plaît bien.
Alors, comment a commencé cette danse macabre? Comment a commencé cette manie dansante, puisque très longtemps on l'a appelée comme ça, une manie dansante?
Une femme dont on connaît le nom, Enline Trofea, le vendredi 12 juillet 1518, vers midi, sort de chez elle, rue du Jeu des Enfants, quand même, quel nom de rue, et une rue qui existe toujours, avec son nourrisson dans les bras, elle va jusqu'au pont du Corbeau, et là, elle balance son baume à la rivière. Elle avait plus de lait, pouvait donc plus allaiter son baume, et c'était impossible de le nourrir. Elle revient rue du Jeu des Enfants, et là, dans la rue, elle se met à danser. Et d'autres gens qui étaient dans des situations infernales comme elle, la voyant, se sont approchés d'elle et se sont mis à danser aussi. Et donc cette danse est devenue contagieuse et tout le monde est rentré dans le sillage d'Enline Trofea. Et le gros problème, c'est que les gens qui se mettaient à danser ne pouvaient plus s'arrêter. Ils dansaient nuit et jour pendant des semaines. Les médecins qui déboulaient se disaient, mais comment c'est possible? Même les plus chétifs n'arrêtent pas de danser. Les pieds en sang, cartilage apparent. Et les gens mouraient d'épuisement, de crise cardiaque. À un moment, c'était 30 morts par jour. Et le clergé et le maire essayaient d'arrêter ça aussi bien qu'ils pouvaient. Ils avaient beaucoup de mal.
Alors, vous mettez donc en scène cet événement qui s'est passé, Jean Tellet, dans Entrer dans la danse. Et vous mettez surtout en valeur cette dualité qui était déjà là entre le clergé très riche et ce peuple misérable.
Oui.
Et surtout entre les hommes de religion et les médecins.
Ouais, mais oui, le maire, quand il a appris cette épidémie de danse, avait convoqué son grand conseil, fait venir l'évêque et les médecins, en disant, mais alors, c'est quoi cette nouvelle connerie qui nous arrive? C'est naturel, c'est surnaturel. L'évêque, tout de suite, il dit, c'est surnaturel. C'est une punition divine, c'est parce qu'ils achètent pas assez d'indulgence, c'est strasbourgeois et tout. En fait, il faudrait qu'ils aillent en pénitence à un endroit qui s'appelle la grotte de Saint-Guy, à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg et tout, et qui prie Saint-Guy, et puis voilà, ils seront guéris. Et les médecins, tout de suite, ont dit, non. C'est un phénomène naturel et ça n'est pas une danse de Saint-Guy, ne serait-ce que parce que la danse de Saint-Guy n'est pas une danse. C'est des secousses nerveuses et tout. Tandis que là, les gens dans la rue faisaient vraiment des danses. Ils faisaient des caroles, des tresques, des rondes, des farandoles, à danse des cigognes et tout. Alors après, les médecins ont dit, on a pensé que c'était peut-être une crise d'épilepsie collective. Mais ce n'est pas le cas parce que personne, aucun danseur n'a de bave écumeuse aux lèvres.
Et quand vous dites ça, c'est parce que vous vous basez sur des écrits d'un médecin qui est venu tout de suite après et qui a enquêté.
Oui. Et puis après, les médecins ont dit, on sait aussi que ce n'est pas une crise d'ergotisme. L'ergotisme, c'est la maladie du seigle, c'est la moisissure du seigle, c'est le LSD à l'état pur. D'ailleurs, le LSD, c'est la reconstitution chimique de la moisissure du seigle. Et les médecins ont dit, et ça peut pas être ça, parce que l'ergotisme diminue l'afflux sanguin dans les membres, donc empêche mécaniquement de danser. Donc les médecins ont dit, On ne sait pas ce qu'est cette maladie, on sait juste que c'est une fièvre. Et puisque c'est une fièvre, plutôt que d'essayer d'empêcher les danseurs de continuer à danser, il faut mieux les faire danser encore plus pour qu'ils transpirent énormément et que, comme toutes les fièvres, ça va partir avec la sueur. Le maire a alors décidé, derrière la mairie, place du marché aux chevaux, de faire dresser un plancher, un dance-floor en fait, incroyable ça, et de réquisitionner tous les musiciens de la ville qui devaient jouer de la musique nuit et jour pour faire danser les gens. Mais ces gens-là, il fallait pas qu'ils meurent de faim, donc il fallait aussi les nourrir. Et ils pouvaient pas manger, comme ils arrêtaient pas de bouger les bras, ils pouvaient pas se mettre à manger dans la bouche. Et ils avaient barré toutes les rues qui donnaient accès à cette place pour pas que les gens soient contaminés. Mais là, il s'est passé des trucs rigolos. C'est que les mendiants sont approchés. On dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On donne à bouffer aux gens. On dit, ben oui, c'est parce que ce sont des danseurs. Oh, ils ont fait les mendiants, puis là, ils se mettaient à remuer en disant, mais je suis pris par la danse, etc. Enfin.
Mais alors, est-ce qu'on comprend aujourd'hui, avec le recul, la cause de cette transe médiévale?
C'est une danse de désespérance, quoi. Et moi,
c'est une mobilisation politique, parce que vous dites que c'est la première rêve.
C'est la première rêve partie au monde, la plus grande, la plus dingue et la plus mortelle. Plus de 2000 morts. Hein.
Mais c'est une manifestation politique. On peut aussi le voir comme ça.
Je crois pas, non, parce que une manifestation politique, faut avoir de l'espoir, faut avoir. Là, c'est que ils étaient complètement largués et il y avait plus qu'un truc à faire. Il y avait plus qu'à danser, à en crever. On sait qu'il y a une femme qui y allait en disant, je crois ce que j'aime bien, elle a dit, on n'a plus rien. Allez, on danse. C'est notre corps, il nous appartient, on n'a plus que ça.
Alors, l'historien de la médecine, John Waller, vous l'avez lu,
bien sûr. Et
ça fait partie de votre documentation, parce que vous avez plongé dans les archives de l'époque, et en lisant ceux qui ont écrit sur cet événement, lui, il dit qu'il y a eu des morts. C'est pas tout à fait l'avis de la médiéviste strasbourgeoise, Elisabeth Clemens, il y a eu des morts ou pas?
Bien sûr qu'il y a eu des morts. Mais alors, c'est drôle, parce que je revis la même chose que quand j'avais écrit Charlie Neuf, qui racontait à Saint-Barthélemy. Selon que on lit des catholiques, des protestants ou des athées, ça c'est pas la même histoire. Et cette dame dont vous parlez, puis je veux pas un procès, mais est très catholique, et le catholicisme a essayé de décraser ça, de minimiser ça au maximum. Mais c'est faux.
Entrer dans la danse, c'est édité chez Julliard.
Et même à toi qui est forte. un visage danse avec tout le reste. Elle a cherché une nouvelle façon et l'a inventée. Oh, oh, gousset.
Jean Tellet est avec nous pour ce réveil culturel sur France Culture en ce lundi 5 mars. Et Oriane Joncourt, comme tous les mois, qui vient partager avec nous quelques coups de cœur. Oriane Joncourt du magazine Transfuge. Entrée dans la danse de Jean Tellet aux éditions Julliard, vous l'avez eu, Oriane?
Écoutez, moi j'ai toujours été, comme Jean Tellet, fascinée par cette histoire de peste dansante. Je me rappelle de cet historien anglais qui avait écrit un livre il y a quelques années où il racontait ça.
Américain,
ouais. Oui, absolument.
Un historien de médecine.
Ouais, c'était John passionnant.
Waller. Ouais.
Et il avait, et j'aime bien l'approche que lui, il allait un peu sur le côté secte. Il avait, et ça, c'est une approche que vous n'avez pas. Je trouvais ça passionnant quand vous disiez que c'était vraiment une danse de désespoir.
Mais à la fin, il amène son livre vers la comparaison justement des sectes et des choses comme ça. Mais la partie historique, il est vraiment sur. C'est un livre très intéressant. Il y a un Anglais aussi qui a écrit ça. Et c'est marrant. Il y a eu qu'un Anglais et un Américain qu'on écrit là-dessus. Et puis il y a Paracels qui est arrivé quelques années après, qui était fondateur de la toxicologie et qui est venu enquêter sur. Ça a été le premier à enquêter là-dessus. Ouais.
Vous allez continuer à fouiller dans le Moyen-Âge, Jean Tellet, pour essayer de trouver des histoires aussi incroyables qui, en creux, racontent aussi l'époque. Parce que là, on voit bien l'intégrisme, on voit bien la
bien
pauvreté
sûr,
du peuple et puis surtout l'opulence du clergé. Hein.
Oui. La mairie, elle, avait des greniers prévus pour en cas de disette. Et quand il y a eu ce problème de famine, elle a vidé tous ses greniers pour filer à bouffer à la population. Le clergé, lui, avait des couvents, des églises remplies de bouffe, de céréales, de choux, de salaison et tout. Ils ont refusé de distribuer la nourriture pour spéculer. Et donc, ils ont été absolument dégueulasses.
Oriane Joncourt, vos coups de cœur. On commence par la littérature. Littérature, cinéma, théâtre, comme d'habitude.
Avec plaisir.
Littérature, avec une couverture assez étonnante et audacieuse.
Oui, enfin, c'est pas tout à fait un jeune écrivain qui monte, mais c'est vrai qu'on a voulu mettre.
C'est ça qui est audacieux.
Et on a voulu mettre Isaac Bashevis-Singer en couverture, le prix Nobel yiddish qu'on connaît, parce qu'il y a un splendide inédit qui sort, Keila la Rouge aux éditions Stock, et c'est un livre formidable. C'est-à-dire qu'il a vraiment toutes les qualités d'humour, de grotesque, de rythme, de romanesque que peuvent avoir les plus grands romans de Bashevis-Singer. C'est-à-dire, je pense à Chocha, je pense à Ombre sur l'Hudson, enfin, tous les romans qui ont fait sa patte. Et c'est toujours, je trouve, très, très émouvant de sortir comme ça de l'oubli un livre qui a été écrit dans les 30 dernières années de sa vie, puisque ça a été écrit dans les années 70. Comme d'habitude, c'est paru en yiddish dans un journal yiddish publié à New York, puisque Bashevis-Singer vivait à New York. Et puis, ça a été traduit bien plus tard en anglais. Et c'est enfin traduit en français. Alors pourquoi ce temps passé? On a fait tout un dossier pour présenter le livre, revenir sur son œuvre et essayer de comprendre, notamment avec sa traductrice fidèle, Marie-Pierre Bay, en France. Alors ça donne une image contrastée. Ça se passe à Varsovie, dans la communauté juive de Varsovie, comme souvent les livres de Bashevis-Singer. Et l'image de cette communauté juive est, comme souvent chez Singer, assez contrastée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sales types, quoi. Il y a Max, notamment, qui semble presque être le diable. Il est chauve, il boite, il est proxénète, enfin, voilà. Et en même temps, il y a ce personnage de Keila, qui est une prostituée sainte, comme Dostoïevski l'a fait avant Bashevis-Singer, qui essaie tout le temps de se racheter, qui n'y parvient pas, etc. Donc, ça pourrait être cette image contrastée qui fait que on ne s'est pas bousculé pour traduire ce livre-là, mais je ne sais pas. En tout cas, il est merveilleux à lire.
Et c'est en couverture, hein,
de un grand dossier Singer, ouais.
Très brièvement, le coup de cœur cinéma.
Alors, le coup de cœur cinéma, ça vient d'un livre, c'est Eva, de Benoît Jacquot. Très oui, bien. Mais vous, voilà, ah, voilà, formidable.
Je pensais que c'était le Eva de Joseph Losey qui ressort en version intégrale.
Vous avez remarqué
donc,
qu'il est très différent.
Toute ma fiche est mauvaise. Allez, je la jette. C'est pas grave, on en a parlé avec Arnaud Desprechin et Michel Simon.
Ouais. C'est parti aussi du livre de Chase, sauf que absolument. Cette fois, c'est Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel qui nous donnent un entretien. Benoît Jacquot qui nous donne un entretien pour nous raconter un peu pourquoi il a voulu aller sur les traces du premier Eva.
Eva donc, et puis enfin, théâtre.
Oui, théâtre avec une superbe pièce d'Albert Camus, État de siège, qui n'a pas été jouée depuis 1948 et qui va être mise en scène au Théâtre de la Ville par Emmanuel de Marcimota, qui aime comme ça s'emparer de textes un peu oubliés de grands noms. L'État de siège, c'est la peste, mais ça n'est pas la peste. C'est-à-dire que c'est le même récit, la peste entre dans la ville, et un peu comme votre peste dansante, les gens deviennent fous, fous de terreur. Et comme dans le roman de Camus, eh bien c'est un État totalitaire qui va utiliser, manipuler cette foule terrorisée pour installer le totalitarisme, et puis ils vont essayer de s'échapper. Mais ce n'est pas le texte de la peste. Vraiment, Camus l'a écrit pour le théâtre en 48. Il a été très mal reçu, donc la pièce n'a jamais été rejouée. Et c'est assez confus. Il la rejoue aujourd'hui. Emmanuel de Marcimota avec une troupe formidable, notamment Hugues Kester. Voilà, comédien mythique. Et voilà, c'est une très très belle pièce.
Voilà, c'est un beau numéro.
On fait ce qu'on peut.
Et on va sortir ce mois-ci. Votre coup de cœur, Jean Tellet, pour terminer cette émission, littérature, cinéma, théâtre.
Je suis allé voir Ni juge ni soumise il y a deux jours. Et je pensais que j'allais voir, étant donné la bande-annonce, un film rigolo sur une juge farfelue et tout. Et bon sang, le film, il se termine dans une noirceur totale. On s'enfonce dans l'abîme des délires de cérébraux. Ouh, ça m'a marqué, ça. J'ai trouvé ça vachement bien. Puis c'était un film qui était fait par la bande de Striptease et tout. Et moi, quand je travaillais à l'Assiette Anglaise avec Striptease, ils m'avaient proposé de travailler avec eux. Et puis je voulais pas, mais on s'est changé des dingos. Moi, je leur filais en France un mec qui avait construit une soucoupe volante pour emmener sa mère mourir sur une étoile. Il me refilait une patronne d'hôtel qui se prenait pour la Sainte Vierge. Voilà, on faisait des trafics de dingues. Et j'ai beaucoup aimé ce film.
Merci d'être passé, Jean Tellet. Je rappelle, Entrée dans la danse, c'est édité chez Julliard. Merci beaucoup, Aurélien Jeancourt, d'être passé ce matin. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On se retrouve demain, et demain, je serai avec Nicolas de Crécy.
Chaîne d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux.
vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
34 years strong. CIUT, the sound of your city.
Yeah. Moi, je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Ledor Foundation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Ledor Foundation, Diversity our Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Ledor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Ledor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Media. Croix Rouge canadienne, merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie. L'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Ici, c'est toujours numéro 1. Numéro 1 en Guadeloupe, numéro 1 en Martinique. Énergie Antilles, numéro 1 sur les gifts. Numéro 1 sur les cadeaux. Numéro 1 sur la proximité avec les auditeurs. Numéro 1 sur les artistes. Numéro 1 sur les concerts. Numéro 1 sur la bonne humeur. Énergie. Encore et toujours votre radio numéro 1. Énergie, it's music only.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster les histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Été 2021, on garde le tempo sur CUT 89,5 FM. Et là, nous entendons le plus grand festival gratuit de musique africaine, Afrofest, présenté par Music Africa. Le festival nous revient en ligne pour une deuxième année consécutive. Et nous entendons actuellement Afro Globe du Congo. Et oui, l'événement de cette année a débuté le 16 juillet, se termine aujourd'hui, dimanche 25 juillet. Je vous invite à vous brancher dès 20h ce soir, et oui, sur afrofest.ca. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Et cette année, nous avons un florilège d'artistes du Sénégal, du Cameroun, du Maroc, de Madagascar, du Nigeria, du Ghana et j'en passe. Les artistes qui clôtureront Afrofest aujourd'hui, Valérie Ekoumé du Cameroun et Asiko Afrobeat ensemble du Nigeria. Dès 20h sur afrofest.ca. Allez-y faire un tour, madame, monsieur. 33e édition Afrofest qui a démarré sur CIUT 89,5 FM. Et oui, que le temps passe, que de chemin parcouru. Si tout va bien, nous serons dans les Beaches l'année prochaine, coin Woodbine, Lakeshore. Allez, l'année prochaine. Édition spéciale été 2021, on garde le tempo. Rendez-vous avec un jeune Marocain qui a grandi en Côte d'Ivoire. Il est considéré comme l'un des meilleurs humoristes de sa génération en Afrique francophone. Mesdames et messieurs, applaudissons Wallace.
Je viens de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça c'est dit, c'était vraiment pas une vanne, donc je viens de Côte d'Ivoire. Et puis je suis très fier de venir de Côte d'Ivoire, vous savez, moi mon père il est arrivé en Côte d'Ivoire, à la base il partait en France, et ça a été très dur pour nous de l'apprendre quelques années plus tard. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il m'a dit quand je suis arrivé, c'était une colonie française. Nous on vient du Maroc à la base. Là, on est quatre. Et je lui ai dit, mais comment tu es parti en Côte d'Ivoire? Il m'a dit, oui, quand je suis arrivé, c'était le drapeau de la France. J'ai dit, alors? Il m'a dit, ouais, j'ai vu le drapeau, je suis rentré, moi, je croyais. Même les douaniers à l'aéroport, c'était des Français, hein. 4 ans plus tard, l'indépendance est proclamée. Il me dit, je sors de la maison, je vois le bleu, blanc, rouge. Et il a changé de couleur. Il est devenu orange, blanc, vert. Au début, j'ai dit, c'est le soleil. Le drapeau est... Il m'a dit, je suis sorti dans la rue, je vois les douaniers. J'ai dit, c'est pas possible que le soleil, il a fait tout ça quand même. Mon père m'a dit qu'on lui a proposé en 1960 la nationalité française et la nationalité ivoirienne, mesdames et messieurs. Il a choisi la nationalité ivoirienne. J'ai demandé à ma mère pourquoi il a fait ça. Elle m'a dit, je crois qu'il avait pas très bien compris la question. Mais attention, moi je suis très très content aujourd'hui de vivre en Côte d'Ivoire, je vous le dis très sincèrement, c'est vraiment du fond du cœur, je suis très content parce que contrairement à tous mes amis qui sont passés là avant, qui font le tour de l'Europe, moi je fais le tour de l'Afrique et c'est complètement différent, je vous jure, on vit des choses en Afrique qui ne se passent qu'en Afrique et heureusement parce que vous n'êtes pas prêts, je vous jure. J'ai joué au Cameroun il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'il y a des Camerounais ce soir? J'adore Bruxelles. J'ai joué au Cameroun il n'y a pas très longtemps, je te jure, les Camerounais, ils sont magnifiques, ils sont expressifs. Tu joues au Cameroun, le public, il parle avec toi. Je suis en train de faire mon spectacle, à un moment, il y a un gars qui s'est levé de sa chaise, il m'a dit, voilà, tu as raison. J'ai moi-même vécu la même situation, d'ailleurs, je vais vous raconter. Pourquoi tu fais ça? C'est mon spectacle. Je suis allé jouer au Congo, mesdames et messieurs, j'adore. Ouais, il y a que ça en Belgique, c'est incroyable, hein. J'adore les Congolais. Pourquoi les Congolais, vous mettez I à la place de U et U à la place de I? Non, mais c'est vrai, vous savez dire les deux, quoi. Mettez chacun à sa place. Je suis arrivé, il m'a dit, ne passez pas par là-bas, c'est un sens inuque. Mais change ça! Première question qu'on m'a posée à l'aéroport de Kinshasa, il m'a dit, oh, Zolo Balingala! J'ai dit, tu dis quoi? Il m'a dit, vous avez une arme sur vous. J'ai dit, non, il m'a dit, tenez, vous allez en avoir besoin. J'adore, j'adore. Je suis allé au Gabon. Je suis allé au Gabon, j'adore les Gabonais. Les Gabonais, c'est le seul être humain au monde qui te répond à une question par une question. Peu importe, tu dis au Gabonais, il est quelle heure? Il te dit, quelle heure tu veux qu'il soit? J'ai dit à un Gabonais, pourquoi quand on vous pose une question, vous répondez par une question? Il m'a dit, qui t'a dit ça? J'ai abandonné. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très, très différente de tous les pays d'Europe que j'ai pu visiter. Je le dis parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais à Paris. Et mon téléphone a sonné. J'ai dit oui, allô, chérie. Le taxi, j'étais dans un taxi. Il a compris que j'allais parler avec ma femme. Il a mis des boules quies dans ses oreilles pour pas écouter ma conversation. Je vous jure. Ça s'appelle avoir de la discrétion. J'étais à Abidjan. J'ai dit oui, allô, chérie. Le taxi, il a baissé le son de la musique. Non seulement il écoute ta conversation, mieux, il participe à ta conversation. J'ai dit, ah, tu rentres pas tout de suite. Tu rentres à quelle heure? 23 heures. Tu fais quoi? Tu classes des dossiers. Il était à côté, il m'a dit, un mois. J'ai dit, pardon, il m'a dit, un mois. On classe pas les dossiers jusqu'à 23 heures, mon petit. C'est toi qu'elle a classé. Elle est avec son dossier. C'est des fous, je te jure. J'ai tourné, je suis sorti du continent africain, maintenant je joue en Europe. Je suis allé à Londres il n'y a pas très longtemps, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai adoré Londres, l'aéroport, parce que je n'ai pas eu la chance de rentrer totalement dans Londres. Ça ne s'est pas très bien passé à l'aéroport. Je suis arrivé, j'ai mis mon sac dans le scanner à bagages, il m'a dit « Please, mister, we want to check the bag ». Il voulait fouiller mon sac. Bon, moi, tu vois, j'ai vu deux personnes qui sont passées avant, tu n'as pas « check the bag ». Bon, je me dis, ma barbe, elle n'a pas beaucoup joué en ma faveur, donc je lui ai dit « you can check it ». But don't worry, you will not find any bomb inside. Ça veut juste dire il y a pas de bombe. Mais lui, il a pas entendu la phrase. Il a entendu bombe. Il a fait deux pas en arrière.
We've got a situation.
Je lui dis wow, it's a joke. I'm comedian. Il m'a dit you can't joke with that, mister. Et là il y a mon côté ivoirien qui est remonté. J'ai dit hey, faut pas crier sur moi, hein, tu es malade. Il m'a dit, you can't joke with terrorism. Il y avait 40 personnes autour. Ils ont fait, terrorist, oh my god! Ils m'ont fait rentrer dans une pièce. Il y avait une télé qui me filmait, BFM TV, je sais pas si vous connaissez. C'est les chargés de com de Daesh. Ils m'ont fait rentrer. Ils m'ont fait rentrer dans une pièce. Et là, il m'a dit, why? Je lui ai dit, ouais. Il m'a dit, why? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, why did you say it? Parce qu'il n'a pas le droit de dire bombe. Donc moi, je m'amusais. Je lui ai dit, what did I say? Il m'a dit, stop that shit now. Et là, j'ai été énervé. Je lui ai dit, I didn't say anything. Only say there is not any fucking bomb inside. On m'a électrocuté. Je me suis réveillé dans l'avion, direction la Côte d'Ivoire. Comment j'ai su que je partais en Côte d'Ivoire? C'est l'hôtesse de l'air quand elle m'a parlé. Elle m'a dit, hey, tu es levé? Tu dormais là? Tu veux manger? Je me suis rendormi direct. Je suis arrivé. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, fatigué, énervé. Le policier qui me voit, il me dit, hey, « Hé, petit, il y a quoi dans tes bagages ?» Toute la rage que j'avais accumulée à Londres, je l'ai versée sur lui. Je lui ai dit, « Non, faut fouiller. »« Faut fouiller !»« C'est pas bombe, hein, c'est missile, j'ai mis dedans, voilà !»« Faut fouiller !»« Tu connais Kalash ?»« Kalash, il y en a !»« Faut fouiller !»« Tu connais bombe nucléaire ?»« Il y en a !»« J'ai ça dans ma valise, oui, oui, et faire péter la Côte d'Ivoire !» Tu connais Kim Jong-il, lui-même il est dedans, il est comme ça. Faut fouiller. Hey, je te jure, il m'a regardé comme ça 3 secondes et il m'a fait. Tu es trop bête. Suivant. On n'a pas peur, nous. Nous, quand la grippe aviaire elle est arrivée en Côte d'Ivoire, c'est là qu'on a mangé poulet. On dit, il y a quoi dans grippe aviaire? Ils veulent pas qu'on mange poulet. Nous, on veut voir clair. Quand on nous a dit, faites attention, il y a la vache folle. Ça, on a dit, faut aller demander à la vache qui a rendu ça folle. C'est nous. Mais moi, je sais d'où ça vient, cette peur qu'ils ont, mesdames et messieurs. Cette peur qu'ils ont de l'islam. Je sais d'où ça vient. Moi, je suis musulman. Je sais que des fois, nous, on fait peur. Les gens savent pas que même nous, les musulmans, des fois, on a peur de certains musulmans. Ils savent pas. Bourad, fermez-moi les portes de la mosquée, là. Bâtard qui a soulevé ma voix. Wallah, il va déposer. Merci, Tarmac.
Et Africa.
Chaque dimanche, découvrez les enjeux, l'histoire et les influences de la francophonie grâce au magazine de Radio France Internationale et votre radio CUT 89,5 FM.
Et oui, nos pensées vont au groupe Kassav. Le chanteur Jacob Desvarieux a été admis en réanimation le samedi 17 juillet en Guadeloupe. Jacob Desvarieux a été testé positif à la Covid-19. Les fans du groupe Kassav sont en émoi et nous souhaitons un prompt rétablissement à Jacob Desvarieux que nous entendons en ce moment. Et maintenant, rapidement, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau clip de l'artiste haïtien québécois qui vit à Terrebonne. Eh oui, Vida Loca, présenté par la maison de production tolalitomusic.com. Allez, faire un tour. Eh oui, une chanson inspirée par les événements de 2020 et la disparition de son jeune frère. C'est sur un rythme dansant et tropical que Richie Jay transmet un message primordial. Il n'y a qu'une vie à vivre et il faut en profiter au max. Ne jamais remettre à demain, vivre le présent et vivre follement. Voilà la philosophie que le chanteur transmet dans cette vidéo réalisée par Tariq Gourou et Snars Film. L'ambiance y est clairement à la fête. C'est un jeune bourré de talent. Hein. J'espère qu'il sera des nôtres très prochainement en direct, pourquoi pas. Vous retrouverez tous les liens de nos invités, de nos artistes sur notre site popourishow.com. Sans plus tarder, Vida Loca de Richie J. Oh yeah.
L'an dernier, on a tout vu, on a quand même survécu. Tant de proches qui sont partis et qui ne reviendront plus. C'est ainsi que va la vie, pire en pire à chaque jour. J'ai grandi et j'ai appris qu'il faut vivre malgré tout. Plus le temps passe, plus je me demande, ça sert à quoi d'être dans ce monde. Plus le temps passe, plus les anges me parlent, ils me disent, vive la vida loca. Vive la vida loca. Vive la vida loca. Vive la vida loca.
Oye, amore.
À force de souffrir, j'ignore la douleur. À force de sourire, j'ignore la colère. À force de me nourrir, j'ignore la saveur. À force de tigre, je dénonce mon cœur. J'ai perdu des amis, mais j'ai gagné des frères. J'ai grandi dans la rue où je connais la misère. J'ai des signes sur les murs, les portraits de nos frères. J'en profite de la vie, ouais, malgré ma douleur. Plus le temps passe, plus je me demande, ça sert à quoi d'être dans ce monde. Plus le temps passe, plus les anges me parlent. Ils me disent, viva la vida loca. 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 Ay, ay, ay. Viva la vida loca.
Mais qu'est-ce que tu écoutes comme ça, ma chère Marine?
Oui, j'écoute un poporicho.
C'est le tempo de l'été qui tire à sa fin, madame, monsieur, sur CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et oui, vous pouvez retrouver tous les liens et les infos sur Richie J et Tolalito Music.
à qui nous remercions chaleureusement sur notre page popourishow.com. Quelques petites vites qui font le buzz sur la planète et que vous pouvez retrouver sur notre page popourishow.com. L'enseignante de Montréal, Raouadja Zarsi, a partagé sa passion pour la littérature et la diversité avec Emmanuelle Lepuchon-Wortzmann, directrice du CREFO. Récemment, vous retrouverez son entretien dans le dernier podcast sur le site du CREFO ou à popourishow.com. Elle sera bientôt à l'antenne. À partir du 9 août, les citoyens et les résidents permanents américains entièrement vaccinés seront autorisés à entrer au Canada. Enfin. Et le 7 septembre, les frontières avec l'Europe et les autres pays du monde, à part l'Inde. Et oui, les frontières donc seront ouvertes aux étrangers européens. Sommet fédéral sur l'islamophobie à Hamilton cette semaine. Le gouvernement et les citoyens doivent agir, dit Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Une mosquée a par ailleurs été vandalisée le 14 juillet à Cambridge, toujours en Ontario. Et ça sent un peu les élections générales, vous ne sentez pas? Les collèges et les universités de l'Ontario doivent se préparer à un retour à la quasi-normalité avec un retour en personne dans les salles de classe avec pleine capacité à l'automne. Une directive du ministère des collèges et des universités demande aux institutions de se préparer à cette éventualité. Mais nous, ici, sur le campus de l'Université de Toronto, à la radio CUTFM, nous n'avons rien reçu. Et comment ça se fait? Au Manitoba, le torchon brûle entre les Premières Nations et le gouvernement provincial. Des représentants des Premières Nations dénoncent les commentaires récents du Premier ministre et son ministre responsable des affaires autochtones, dont il réclame la démission. Démission. Démissionnez tout de suite, s'il vous plaît. En Haïti, le nouveau premier ministre haïtien, Ariel Henry, a pris officiellement ses fonctions mardi dans un pays au bord du chaos. Il promet de rétablir l'ordre afin d'organiser les élections exigées par la population et la communauté internationale. En Afrique du Sud, ah là là, ça va pas du tout. Nouveau bilan de 215 morts, reprise du procès Zuma sous forme virtuelle pour éviter d'attiser de nouvelles violences après une semaine d'émeutes. Au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, a échappé à un attentat, et oui, c'était mardi dernier, à une tentative d'assassinat à la grande mosquée de Bamako. Un homme l'a attaqué à l'aide d'un couteau. Et qui se trouve derrière cette tentative d'assassinat, c'est la grande question que tout le monde se pose. Les enquêteurs étudient plusieurs pistes, nous dit-on. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara appelle à poursuivre le processus de réconciliation nationale. À l'île Maurice, record de nouveaux cas Covid-19. Pendant ce temps, le Premier ministre adjoint vante les progrès réalisés pour combattre la pandémie avec un accent très british aux touristes européens, touristes anglais. C'était sur la chaîne internationale du CNN. Incroyable. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a eu en 24 heures plus de 377 nouvelles contaminations. C'était cette semaine, donc Covid-19 qui explose à l'île Maurice. Dommage. La Russie est de plus en plus présente en Afrique à travers une diplomatie officielle, mais également via des acteurs privés. Dans une étude qui vient de paraître, Maxime Audinet, chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et auteur d'une thèse sur l'influence russe à l'Université de Nanterre, analyse cette influence russe en Afrique, en Centrafrique et au Sahel notamment. Comment la politique africaine de la Russie se traduit sur le terrain? Il sera bientôt à notre émission. Les agents d'immigration à l'aérogare de Pearson à Toronto, pris en flagrant délit, en train d'utiliser, tenez-vous bien, la technologie de reconnaissance faciale sur des membres du public sans leur consentement, avertissement ou même préavis. Plusieurs grands médias canadiens enquêtent. Incroyable. Où trouver les meilleures terrasses et les pubs à Toronto? Eh oui, retrouver les coups de cœur, nos coups de cœur. Coup de cœur aussi de certains auditeurs, de nos amis, eh oui, de nos partenaires. Et vous recevrez un cadeau sur popourishow.com. Allez, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm. D'ailleurs, êtes-vous prêt à retourner dans un cinéma, un bar, un restaurant ou allez voir un concert. Allez, répondez et courez la chance de gagner un magnifique cadeau. Popourri@cut.fm. La 46e édition du Festival international du film de Toronto devrait commencer dans moins de 2 mois et les co-directeurs du TIFF ont annoncé cette semaine les 32 premiers films étoilés sélectionnés. Plus de 100 films seront projetés en vidéo sur demande et en personne dans des salles de cinéma ou en plein air au centre-ville de Toronto, mais aussi dans plusieurs salles. Donc, coup d'envoi le 9 septembre au Roy Thomson Hall. Fringe, where are you? C'est oui, cet été au Digital Toronto Fringe Festival pour les mordus du monde digital qui se passe en ligne. Et c'est gratuit hein, pour la plupart des séances jusqu'au 31 juillet. Allez sur le site fringetoronto.com. Covid-19, une recherche sur l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'enseignement en français en milieu minoritaire. Ça pourrait intéresser certains auditeurs, auditrices ou enseignants à l'écoute. L'article se trouve sur le site de ONFR+. Et puis l'Université Saint-Paul à Ottawa est-elle sous respirateur artificiel? C'est aussi un article sur le site ONFR+. En Tunisie, plus de 2000 nouvelles contaminations et 117 nouveaux décès annoncés cette semaine. Et toujours en Tunisie, le champion de natation tunisien Oussema Malouli a annoncé lundi dernier avoir décidé de boycotter les Jeux Olympiques de Tokyo en raison des poursuites judiciaires lancées à son encontre. Il convient de rappeler que Oussema Malouli a affirmé avoir été convoqué récemment par la brigade économique et financière suite à une plainte déposée à son encontre par la Fédération tunisienne de natation pour suspicion de falsification, de vol et de mauvaise gestion. Cinéma, toujours. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, était bel et bien au festival de Cannes. Le cinéaste Ousmane William Mbaye intègre l'Académie des Oscars. Bravo, félicitations. Premier marché afro-caribéen de Toronto à ne pas oublier tous les dimanches de 11h à 15h dans la petite Jamaïque jusqu'au début octobre. Réouverture de la galerie Thomson Landry. Et oui, des mesures sanitaires ont été mises en place pour assurer un retour en toute sécurité, notamment en limitant les visites au Stone Distillery Gallery et le Copperage Space sur rendez-vous seulement. Donc, pour une prochaine visite, veuillez contacter l'équipe à info@thomsonlandry.com. Vous retrouverez tous les renseignements sur notre site popourishow.com. D'ailleurs, vous pouvez avoir une visite virtuelle sur Facebook et YouTube et aussi sur Artsy, Instagram. Allez sur notre site, vous y trouverez tous les renseignements nécessaires. Très belle galerie d'ailleurs. Galerie Thomson Landry. Distillery District, ici au centre-ville de Toronto. La culture est de retour au Musée Royal de l'Ontario qui s'apprête à rouvrir ses portes aux visiteurs très prochainement. On vous y attend, madame, monsieur, en grand nombre. En plus des expositions, les grands cétacés entrent dans leur univers avec plusieurs artistes. Et oui, ils viennent de partout à travers le monde. C'est pour quelques mois. Allez sur le site du ROM, le Musée Royal de l'Ontario, ou encore sur popourishow.com, et il y aura aussi des visites guidées en français, s'il vous plaît, en français. Allez, nous sommes arrivés à la fin de notre balade intercontinentale. Un grand merci à France Culture, RFI des Amériques et Tolalito Music, Richie J, DJ Devera, Darna Storou, bien le bonjour, Jean Jubeneau, le Festival Compazouk de l'Ontario FKZO. Je vous souhaite bon dimanche, une bonne semaine, bon appétit si vous êtes à table. Que la force soit avec vous. Je vous laisse avec le groupe le plus populaire du Zouglou en Afrique et en Europe, Magic System, qui vient de sortir un 7e album, originaire du quartier de Yopougon à Abidjan, d'où est partie la mouvance Zouglou, l'un des courants majeurs des musiques urbaines d'Afrique des années 90. Voici sans plus tarder Magic System avec leur dernier succès, Molo Molo, une envolée zougloutique et très festif. Engagé. Allez, prenez soin de vous. Ciao.
tête est là, qu'il est difficile d'accompagner quelqu'un qui est assis. Alors pourquoi c'est toi qui pleures tous les jours? Ah oui oh, lève-toi et va te chercher. Molo molo, ça va aller oh oui. C'est Dieu qui est fort, c'est pas capé oh oui.
La vie réussit souvent, c'est que se lève tôt. Mon ami et mon cousin, oh ma belle et mon bébé, mon frère n'est pas la maman, t'es le mon kené koluga. La vaille, la chance se ne suffit pas. Y'a mon bito tolala, kade tolala, a pas bino kolala, tola mbappé, a pas bino mola mouka. Ma boukana, ke boko si ma tete, te boko komedi, boko kose la maninga ma fi ma plan.
Ne veux pas souffrir, alors ne sois pas surpris. Avant toutes choses, il faut avoir la volonté. Malgré les obstacles, tu dois rester déterminé.